Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au cycliste Gilbert Duclos-Lassalle, double vainqueur de Paris-Roubaix en 1992 et 1993. En 1992, Gilbert Duclos-Lassalle choisit d'attaquer de loin, de forcer la décision dans la tranchée d'Arembert. C'est dans ce secteur pavé, situé à plus de 100 km de l'arrivée, qu'il a pris ses distances avec ses plus dangereux adversaires, trop préoccupés à se neutraliser. Seul le Néerlandais Jean-Paul Van Poppel et le sprinteur de l'équipe PDM, et le Belge Rick Van Slick, un habitué des courses du Nord, l'ont suivi dans sa poursuite derrière les rescapés d'une échappée matinale. Dans ce Paris-Roubaix 1992, mené à train d'enfer, Duclos-Lassalle s'est comporté ensuite en parfait chasseur et a attendu le moment opportun pour se débarrasser de Van Poppel et de Van Slick à 46 km de l'arrivée. À Seclin, il s'est envolé vers une victoire qu'allaient favoriser ses coéquipiers. Par exemple, l'Américain Greg LeMond, son chef de file depuis 2 ans. Pour Jean-Claude Colotti et Christophe Capel, il ne restait plus qu'à paralyser les adversaires de Duclos-Lassalle. Un seul homme, Olag Ludwig, qui finira second, allait déjouer leur surveillance. Mais les efforts désespérés du champion olympique de Séoul ne pouvaient que menacer le vieux Duclos-Lassalle, triomphant à Roubaix avec 34 secondes d'avance. Un vrai bonheur pour continuer une incroyable série de victoires françaises, une semaine après celle de Jackie Durand dans le Tour des Flandres. En 1992, Duclos-Lassalle, à l'âge de Pino Cerami, qui avait remporté la reine des classiques Paris-Roubaix en 1960, à l'âge de 38 ans. Si le Paris-Roubaix 92 s'est traduit par la montée en puissance d'une joie étalée sur 46 km, celui de 1993 fut une explosion, un énorme orgasme qu'on ne peut comprendre qu'en déroulant le fil de ce fabuleux dernier quart d'heure. La Belgique était à portée de regard et les 1500 mètres du secteur pavé de Sizouin, classé 3 étoiles par Albert Bouvet, présentaient leur rugueuse inégalité aux hommes de tête, Frison et Van der Poel. À peine avaient-ils commencé à tressauter qu'ils virent passer 2 maillots blancs, ceux de l'Italien Franco Ballerini et de Gilbert Duclos-Lassalle. Affirmer qu'ils évoluaient à une vitesse supérieure serait un euphémisme. Ils grillaient le pavé. Ou plutôt, c'est Ballerini qui volait, Duclos calé dans son sillage. Il a dit « Je me suis accroché, j'étais à fond, mais avec l'âge, on apprend à souffrir. » Le Florentin, Ballerini, la voulait tellement cette victoire qu'il brillait ses vaisseaux sans s'en rendre compte, avec la prodigalité des coureurs qui se savent forts, comme Duclos autrefois, quand il n'était pas encore devenu gibus. De 30 secondes, l'écart passa 2 secteurs pavés plus loin à 1 minute 40 secondes. C'était sûr, la victoire se jouerait dans le plus classique des mano à mano. C'est alors que Duclos fut grand. Il savait mieux que personne à quel point Ballerini, avec ses 10 ans de moins, lui était supérieur en valeur athlétique. Mais il devinait aussi chez le Florentin de l'impatience, de la fébrilité, l'envie débordante de faire aussi bien que ses équipiers Musio, vainqueur du Tour des Flandres, et Cipollini, lauréat de Gan Wevelgem. Alors, Duclos-Lassalle laissa Ballerini prendre du vent et fit en sorte d'entrer sur la piste rose dans son sillage. Là, il était sur son terrain. Mais pas Ballerini, à l'aise sur le rond de ciment comme un chien sur un parquet ciré. Un demi-tour avant la ligne, il l'attaqua avec l'énergie que lui avait laissé ses 38 ans et 8 mois, appelant tout son métier à la rescousse. C'était couru. Ballerini allait le manger tout cru dans la dernière ligne droite. Mais il s'accrocha, le père Duclos. Il s'accrocha avec le vent dans le dos. Il sembla, à un moment, être coiffé sur la ligne. Ballerini leva les bras, une meute de paparazzi à ses trousses, un grand silence se fit dans le vélodrome. Duclos terminait son tour de malheur et son visage était celui d'un battu. Un jeune garçon de 13 ans lui sauta au cou en pleurs, son fils Hervé. Mais tout à coup, le speaker, Daniel Mangias, laissa planer une incertitude. Il fallait attendre la photo finish. Et commenta finalement Mangias en direct, vainqueur, Duclos Lassalle. Le Béarnais arrêta sa phrase pour pousser un hurlement, les yeux au ciel, les poings serrés, comme Lemon sur les Champs-Élysées en 1989. Ce fut alors la ruée des photographes, les micros, les caméras. Hervé, son fils, sa sœur Magali et la maman Maïté furent emportés par le flot médiatique vers le podium. La folie. En quelques secondes, Gilbert Duclos Lassalle venait de rejoindre De Vlaeminck et Van Looy et quelques 9 autres titulaires d'un fameux doublé. Gilbert Duclos Lassalle a donc vaincu Franco Ballerini et son sprint victorieux est entré dans la légende. Il a dit « En vitesse pure, Ballerini était plus rapide et m'aurait sans doute battu sur route. Mais j'étais plus à l'aise que lui sur piste pour avoir disputé pas mal de 6 jours, compétition de cyclisme sur piste. Je me suis lancé à mi-pente et j'ai pris de la vitesse pour le surprendre au démarrage. Dans la ligne droite, je l'oblige à s'écarter vers la balustrade, ce qui l'a pénalisé et m'a permis de le battre pour 8 centièmes. 8 centimètres. Le sortilège de Roubaix a eu raison de l'Italien. Styliste hors pair sur les pavés, Ballerini finit par le rompre en 1995, puis s'impose de nouveau en 1998. Il décédera en 2010 lors d'un rallye automobile. Gilbert Duclos Lassalle est né le 25 août 1954 à Lambeye dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est issu d'une famille de 5 enfants, son père est chauffeur-livreur dans une entreprise viticole et sa mère est éleveuse de poules et de canards. Gilbert Duclos Lassalle effectue toute sa carrière professionnelle entre 1977 et 1995 dans la même équipe qui change de dénomination. Peugeot Esso Michelin de 1977 à 1981, Peugeot Shell Michelin de 1982 à 1986, Z de 1987 à 1992, enfin Gant de 1993 à 1995. Considéré comme un baroudeur infatigable chez les amateurs, il passe professionnel à 22 ans, en 1977 chez Peugeot, qui compte comme leader Bernard Thévenet, Jean-Pierre Danguillaume, Guy Sibylle, Jacques Esclassant. En février, sur les courses préparatoires où il occupe un rôle d'équipier, il ne parvient pas à suivre le rythme en course et songe à arrêter sa carrière et reprendre son métier de mécanicien dans un garage de Pau. En avril, il reprend confiance en terminant 12e du 4e national. L'année suivante, en 1978, il est 28e de son premier Paris-Roubaix. La saison 1980 le révèle au grand public. Doté d'une endurance et d'une résistance au froid supérieure à la moyenne, il gagne à l'issue d'une échappée en petit comité de 70 km la 3e étape de Paris-Nice, disputée dans des conditions climatiques épouvantables, verglas, neige et vent glacial. Il prend le maillot de leader à Saint-Étienne, conserve ensuite son avance malgré les difficultés, une arrivée en altitude à Villard-de-Lans, pluie glaciale et violence à Mandelieu-la-Napoule, pour remporter le classement général avec plus de 3 minutes d'avance sur son dauphin, le Suisse Stefan Mutter. Plus tard dans l'année, il est 7e du Tour des Flandres et 8e de l'Amstel Gold Race, mais surtout 2e de Paris-Roubaix, à près de 2 minutes du vainqueur, l'Italien Francesco Moser. Lors du Tour de France 1981, il termine 2e d'une étape arrivant sur le vélodrome de Roubaix. Il est battu au sprint par Daniel Willems à cause d'un calepied défectueux. En 2e partie de saison, il gagne le Grand Prix de Plouay en Bretagne et termine 4e du championnat du monde sur route. En 1982, il est 2e de Paris-Nice derrière Sam Kelly, alors qu'il occupe la tête du général la veille de l'arrivée au Col d'Aise. En 1983, il remporte Bordeaux-Paris après avoir subi un entraînement adapté, dont les séances de 450 km derrière entraîneur. Il s'impose également sur le Tour Midi-Pyrénées et le Grand Prix de Fourmies. Lors de Paris-Roubaix, il est en tête avec Francesco Moser, qui lui propose de l'argent en échange de la victoire, ce que Duclos Lassalle refuse. Revenu de l'arrière, Annie Cooper les attaque au carrefour de l'arbre, mais aucun des deux coureurs ne fait l'effort, laissant le Néerlandais partir seul pour la victoire. Duclos Lassalle devance l'Italien au sprint pour la deuxième place. Amateur de vie au grand air, grand chasseur, il est victime d'un accident de chasse en octobre 1983 et se déchiquette la main. En 1985, il termine deuxième de Bordeaux-Paris, devancé par le Belge René Martens, lauréat surprise du Tour des Flandres 82. En 1987, Duclos Lassalle s'offre le classement des sprints intermédiaires du Tour de France, symbolisé par un maillot rouge, performance qui passe relativement inaperçue. L'année suivante, il termine second d'une étape de haute montagne du Tour, un véritable exploit au vu de ses qualités modestes de grimpeur. Et en 1992, il remporte à presque 38 ans solitaire Paris-Roubaix, 14 ans après sa première participation. Il rédissive l'année suivante en battant au sprint l'Italien Franco Ballerini de 8 cm. À la fin des années 1970, le vélodrome de Roubaix est dans un état déplorable. Les coureurs français sont inexistants et le public est constitué à 90% de Flamands, des Belges venus encourager Roger de Vlaeminck, quadruple vainqueur de l'épreuve. Jean-Marie Leblanc vit l'arrivée devant le siège de la Redoute, avenue des Nations Unies, comme un coup de couteau dans la tradition. En 1988, le nordiste signe un texte enflammé dans l'équipe pour un retour à l'anneau André Pétrieux, du nom d'un ancien conseiller municipal et bistrotier de Roubaix. L'ancien coureur perce encore sous la plume du journalisme. Il dit « J'ai terminé deux Paris-Roubaix sur le vélodrome et je savais combien c'était rare, donc précieux. J'ai mal vécu quand mes prédécesseurs ont déménagé l'arrivée devant la Redoute pour des raisons commerciales. » En octobre de la même année, Jean-Marie Leblanc est nommé directeur de la Société du Tour de France, organisatrice de la classique. Dès 1989, il met en acte ses écrits. Il dit « Il a fallu se battre pour effectuer les travaux de rénovation nécessaires et faire prendre conscience aux élus qu'il s'agissait du patrimoine de leur ville. Un patrimoine, une première fois détruit en 1924 et reconstruit en 1936. La course y revient en 1943 et voit le Belge Marcel Kint s'imposer avant de regagner son domicile à Courtrai, à vélo. Depuis, le vélodrome exerce sa magie, mais aussi son sortilège. Le plus habile et féroce sur les pavés peut tout perdre sur cette piste de 500 mètres à parcourir une fois et demie, soit 750 mètres. Sur une piste, les lois de la physique ne sont plus les mêmes avec l'inclinaison. Il faut être malin, opportuniste et instinctif, or il y a le temps de tergiverser. C'est ce qu'on appelle le sortilège du vélodrome. En 2016, Tom Boonen va battre le record de victoire de Vlaeminck. Mais il a les jambes qui flageolent et se fait surprendre par Matthew Heyman. Il en restera à 4 victoires. Le Belge a toujours ses 4 victoires pour se consoler. D'autres restent à jamais des maudits du vélodrome. Il y a un Steve Bauer battu pour l'épaisseur d'un demi-boyau par Eddie Plancart en 1990. Un Sepp Van Ark et les litres de larmes qu'il déverse après sa 2e place derrière Fabian Cancellara en 2013. Ou encore cette histoire franco-française de 1997. Cheveux noirs au vent et pilotage kamikaze, Frédéric Moncassin voltige sur les pavés. Mais les 750 derniers mètres sont de trop pour le Toulousain. La faute à l'attentisme d'Andrei Schmil, qui reste collé derrière lui, et au retour de 6 poursuivants à l'entrée du vélodrome. Frédéric Guédon, 25 ans, en fait partie. Il est le moins connu et a bénéficié d'une fraction de seconde pour saisir la chance d'une vie. Il remporte Paris-Roubaix. Les vainqueurs de Paris-Roubaix sont les suivants. Avec 4 victoires, Tom Boonen, 2005, 2008, 2009, 2012. Éric de Vlaeminck, 1972, 1974, 1975, 1977. Avec 3 victoires, Van der Poel, série en cours, 2023, 2024, 2025. Fabien Cancellara, 2006, 2010, 2013. Johan Museu, 1996, 2000, 2002. Francesco Moser, 1978, 1979, 1980. Eddy Merckx, 1968, 1970, 1973. Rick Van Looy, 1961-1962-1965. Drebry, 1931-1934-1935. Oscar Lapize, 1909-1910-1911. Enfin, avec deux victoires, on citera, outre du Colossal, 1992-1993, Ballerini, 1995-1998, Marc Madiou, 1985-1991, Sean Kelly, 1984-1986, Van Steenbergen, 1948-1952, Claes, 1946-1947, Henri Pélissier, 1919-1921, Krupp Roland, Belge, 1914-1919, Au Couturier, France, 1903-1904, Lesna, 1901-1902, et enfin Garin, 1897-1898. Le Paris-Roubaix avait été, pour la première édition, couru en 1896.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.